Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Spotzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 58, ici Richard Delhomme. Dans cet épisode, je discute avec Jérôme Cousin, cycliste pro dans l'équipe Total Direct Energy. Vous l'avez peut-être vu passer, mais Jérôme a profité du déconfinement pour s'offrir une balade touristique au Portugal en mode bikepacking. L'occasion était trop belle et j'ai sauté sur l'occasion pour lui poser 2-3 questions. Sans plus attendre donc, Jérôme Cousin.
Ouais, allô.
Salut Jérôme, ça va ?
Ça va, tranquille.
T'as réussi à faire ta séance ?
Non, j'y vais après là.
D'accord, c'est quoi cette séance ? Tu vas faire quoi ?
Bon, je vais faire un petit coup de VTT.
Ouais. Pourquoi ? Si c'est bête comme question, mais pour un routier UCI, ça t'apporte quoi de faire une séance VTT ?
Bon, non, mais ça fait changer les exercices. J'ai fait de la route ce matin. Je fais un petit tour de VTT un peu plus explosif cet après-midi.
D'accord. Donc c'est plutôt une recherche d'explosivité.
Ouais, c'est pour varier les séances.
Ouais. Ok. Eh bien écoute, déjà merci de m'accorder de ton temps, parce que je me doute qu'en sortie de confinement, le calendrier et l'agenda doivent être bien chargés pour un coureur UCI.
Ouais, vas-y.
Les courses reprennent quand fin août, un truc comme ça
Début août.
Ouais, donc tu vas reprendre avec quoi toi?
Je n'ai pas encore eu l'équipe là.
Ouais, d'accord. Donc, bien, merci. Donc, est-ce que tu peux commencer par une présentation succincte, s'il te plaît? Ou pas trop succincte, on n'est pas obligé de faire court non plus, mais au moins, Jérôme Cousin, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu?
Là, tu as commencé à enregistrer ou
j'enregistre dès le début. Comme ça, oui, j'aurais dû te prévenir, mais en fait, je sors juste d'un autre entretien. Et j'ai pas eu de tour de chauffe. Je reviens juste de me faire un café et de repartir avec toi. Donc oui, effectivement, là, ce qu'on vient de dire était enregistré. Mais comme on n'a pas dit de grosses conneries, tout va bien. Tu peux y aller.
Mmh, ok. Donc, Jérôme Cousin, Total Direct Energy, professionnel depuis 10 ans. J'habite à Lyon et puis je suis actuellement au Portugal.
Ah, t'es au Portugal ? T'es pas rentré en fait ?
Non, y a pas d'avion.
Ah bah oui, suis-je bête ? Donc c'est l'objet de notre entretien d'aujourd'hui, c'est que là t'as fait un bon petit trip bikepacking jusqu'au Portugal. Est-ce que avant ça tu peux revenir un petit peu sur ta carrière pro, comment tu as commencé le vélo, ton parcours jusqu'au professionnel et les différentes équipes que tu as pu visiter?
Alors moi j'ai commencé le vélo au Vesclisson à côté de Nantes. Après j'étais licencié à Pontchâteau. L'US Pontchâteau, et ensuite j'ai été repéré pour aller au sport études Pôle France Talence Piste, donc je faisais de la piste. Mmh. Et j'ai fait ensuite de la piste pendant mes années junior, espoir, avant d'arriver au Vendée U, et ensuite petit à petit passer les échelons pour arriver dans l'équipe professionnelle de Jean-René Bernaudeau, qui à l'époque était sous le nom de Europcar. Mmh.
Sur la piste, tu étais sur quelle discipline sur la piste ?
Poursuite.
Ouais, ok.
Poursuite, après je faisais un peu des épreuves en peloton de temps en temps, mais en fait, comme je suis monté sur un vélo de piste très tard, j'ai commencé le vélo un peu tard, j'étais pas spécialement à l'aise en peloton.
Ouais.
Donc, j'ai quand même fait des courses au point au championnat du monde. J'ai gagné des épreuves sur 3 jours, 3 jours d'Aigues, 3 jours de Barcelone, des épreuves où il y avait du peloton, mais c'est pas là où j'étais le plus à l'aise, on va dire.
Quand tu dis j'ai commencé le vélo tard, t'as commencé à quel âge?
Je faisais du trial à Clisson et puis du VTT au début. Donc, c'est pas que j'ai commencé tard, mais j'étais pas en peloton. Donc, mes premières courses sur route, c'était en cadet, j'ai dû en faire deux ou trois. Et puis après, je me suis mis plus sérieusement en junior 1, junior 2.
Mmh. Oui, donc t'as pas non plus commencé à 19 ou 20 ans. T'as quand même commencé plutôt chez les cadets, donc c'est pas si mal. C'est même très bien.
Ouais, mais ensuite, quand tu te retrouves à faire une course au point championnat du monde en peloton sur un vélodrome, ça fait qu'un an que tu fais du vélo en peloton, ça fait bizarre, quoi.
Ouais. Et après Europcar, t'es toujours resté chez Jean-René Bernaudot ou t'as visité d'autres équipes?
Non, j'ai fait 2 ans chez Cofidis, après 5 ans chez Europcar.
Ouais. Et maintenant Total.
Et après, je suis revenu, c'était Direct Énergie et puis maintenant Total.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a incité, là, en cette période de confinement, de pandémie, à partir au Portugal en mode plutôt bikepacking décontracté, sachant que pour un coureur pro, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent?
Alors, je suis pas parti au Portugal pour faire du bikepacking. Mmh. ça fait depuis le week-end des municipales que je suis arrivé ici. Des premières municipales, donc ça fait plusieurs semaines.
Ouais.
Et en fait, après, il n'y a plus d'avion pour rentrer. Et puis, la situation sanitaire au Portugal était quand même bien meilleure. Et donc, je suis resté là. Et puis, après, j'étais confiné ici. Et puis, voilà pourquoi je suis au Portugal. C'est que j'avais un trou dans mon calendrier et que je suis venu m'entraîner au Portugal parce que j'avais un trou dans mon calendrier, c'est tout.
Donc, c'est juste ça, en fait. Ce trip, il s'est dessiné uniquement parce que tu étais déjà sur place. C'est ça?
Voilà. Ouais.
Mais alors, d'où ma question, pourquoi, c'est bête comme question, mais pourquoi se dire, tiens, je vais plutôt faire un truc en mode touriste plutôt que continuer à rouler classiquement?
Bah, parce qu'on pouvait pas rouler dehors, déjà, qu'on avait fait 6 semaines de home trainer,
ouais.
Et que le Portugal, c'est un pays que je connais pas, donc j'avais l'occasion de rouler là dans le sud du Portugal autour de Faro 2 semaines avant le confinement. Et voilà, ensuite pendant tout le confinement, à rester un peu enfermé, même si au Portugal c'était moins strict qu'en France, à faire du home trainer tout le temps, j'avais un peu envie de, quand après une semaine d'entraînement, de pouvoir reprendre un peu la liberté et puis faire des grandes traversées à vélo pour un peu changer de rythme, quoi. Mmh.
C'est quelque chose qui te manque de temps en temps dans ta vie de coureur pro, cette reconquête de la liberté, de faire du vélo comme on veut finalement?
Non, parce que moi, je considère mon métier comme ça. Je considère mon métier comme ça. Dès que je fais un stage quelque part, peu importe l'endroit, je passe d'abord 2-3 jours après ça dépend du temps que je reste sur place, mais je passe toujours 2-3 jours à visiter la région, enfin du moins ce que je peux en visiter en vélo. Tout en restant dans le plan d'entraînement quand même. Puis une fois que j'ai découvert un peu la région, les différentes bosses, les trucs, je me mets à faire un petit peu plus d'exercices spécifiques. Mais quand je pars en stage, il y a toujours ce double projet, entre guillemets, cette double idée de découvrir un nouvel endroit, des nouvelles routes, de nouveaux villages. Pour moi, c'est important, ça.
Et là, tu l'as fait.
Après, je vais dans des endroits où c'est quand même agréable pour s'entraîner. Hein. Je vais pas, même si la Normandie c'est beau ou la Bretagne c'est magnifique, quand je fais un stage, je vais plutôt dans des endroits où tu as des bosses et que ça soit, enfin, des cols quand même un petit peu plus longs pour pouvoir travailler, quoi.
Ouais. Et là, tu l'as fait en duo avec ta copine, et j'ai cru voir que c'est pas une grosse cycliste, c'est ça?
Bah, elle se débrouille bien, elle a fait 1200 km quand même.
Ouais.
À presque 27-32 moyenne, donc non, elle se débrouille bien quand même. Hein.
Bah oui, carrément, dis donc. Et vous avez préparé ça comment? Vous êtes parti du jour au lendemain, ou vous avez un tout petit peu préparé l'itinéraire, le matériel? Parce que j'ai vu quand même que tu étais très bien équipé en sacoche. Du coup, comment vous avez préparé cette petite aventure?
Donc, moi, j'avais eu l'occasion déjà d'essayer les sacoches avant le confinement. On était parti un week-end, juste une nuit, pour voir. On avait fait un test et puis, en fait, l'année dernière, je m'étais cassé la clavicule et ensuite j'étais resté chez ma maman du côté de Nantes. Et mon projet, c'était de rentrer à Lyon à vélo. Donc, j'avais déjà préparé un peu tout ce qu'il fallait mettre dans les sacoches. Enfin, j'avais déjà tout préparé. Et le médecin de l'équipe ne voulait pas que je fasse ce retour à vélo directement après ma clavicule. Du coup, c'était tombé à l'eau. Mais j'avais déjà, en fait, passé beaucoup de temps à préparer déjà, entre guillemets, ces sacoches. Donc là, comment on a préparé ça, moi j'ai regardé la carte. On a pris, si j'avais tracé au début sur la carte un itinéraire de 800 km à peu près, où l'objectif c'était de traverser les différentes régions et puis les villages entre guillemets mythiques ou à caractère médiéval, avec des villages historiques. Et puis après 2-3 étapes, ça se passait plutôt bien, c'était agréable. Donc on a décidé de rajouter 2 étapes en allant au nord de Lisbonne.
Et vous vous organisiez comment? Chaque jour, c'était assez détendu comme organisation. Vous aviez une heure de départ plutôt matinale. Vous alliez à l'hôtel le soir. Tu peux me raconter l'organisation ou le quotidien d'un périple comme ça?
Bah alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis en étant mon cycliste professionnel, je suis soumis à des contrôles antidopage où je dois donner avec le programme ADAMS. Donc, il faut que je donne un lieu de résidence nocturne. Enfin, je sais pas, ils appellent ça résidence principale, l'étiquette sur le logiciel, mais c'est grosso modo là où je passe la nuit. Donc ça, c'est une résidence que je dois indiquer tous les jours avant 17-18 heures pour la nuit qui vient. Donc en termes d'organisation, déjà dans un premier temps, on réservait la veille pour le lendemain un hébergement, ce qu'on trouvait vu qu'avec la crise du coronavirus, il y avait beaucoup de trucs qui étaient fermés. Donc des guest house où il y a eu un hôtel une fois qui était ouvert, on était les seuls dans l'hôtel. Voilà, mais bon, il fallait que je réserve ça au moins 24 heures à la fin, la veille pour le lendemain, pour pouvoir créer le programme, rentrer l'adresse sur le logiciel antidopage. Et puis ensuite, non, après, c'était à la cool, on partait quand on était prêt, on allait à la boulangerie le matin, on achetait un café, un croissant, et puis on partait.
Vous faisiez pas mal de haltes touristiques, j'ai l'impression, parce que tout à l'instant, tu m'as dit que tu cherchais les villages médiévaux, les trucs comme ça. Il y avait quand même une petite dimension touristique. Vous vous êtes pas mal arrêté, certainement.
Ouais. Je pense que si on se serait pas arrêté, on aurait fini le séjour avec bien plus de 32 moyenne. Je pense 31, 32 même. Mais non, oui, quand on voyait un village sympa, on allait se balader dans le centre du village. Après, tous les commerces au début, les restaurants étaient fermés. Enfin, les commerces, les bars et les restaurants étaient fermés au début. Donc, ça pousse moins déjà à s'arrêter dans le bourg des villages parce que bon voilà, on traversait, on regardait, et puis non, après s'il y avait des points de vue, des observatoires, des attractions touristiques qui étaient sympas à voir, on allait les voir, ouais.
Est-ce que tu as adapté ton matériel? Tu as pris ton vélo habituel, chaussures habituelles? Bon, j'ai vu que tu as pris ton équipement habituel, mais est-ce que tu as un petit peu
J'ai rien
adapté, par exemple?
changé.
Tu n'as rien changé?
Non, non.
Donc, quand tu voulais t'arrêter, tu sortais une paire de tongs et c'était bon.
Voilà. En
Ouais.
fait, j'étais parti léger avec une paire de tongs.
Et en termes de fringues, vous avez emmené combien de change? Par exemple, toi en tenue, tu avais emmené quoi de change?
Moi, j'avais emmené un maillot, un cuissard et puis de la lessive à main, quoi.
Ouais.
Un maillot, un cuissard, de lessive à main, une paire de claquettes pour le soir, 2 paires de chaussettes. Et pas un pantalon que tu pouvais découper en short au cas où, et puis une chemise et une doudoune, quoi.
Super léger donc.
Bah ouais, bah ça suffit, hein. Il fait beau ici, tu sais, il faisait 30, il a fait des journées, il faisait 40, donc t'as pas
Ouais.
besoin de trop te couvrir, hein.
Ouais,
T'as
oui.
pas. Si j'avais emmené un caouet quand même au cas où. Un caouet et des manchettes, mais bon, c'est resté dans le fond du sac, ça.
Est-ce que ça te... Tu y penses des fois pendant la saison te dire bah tiens les courses, l'entraînement, bon tu me l'as dit tout à l'heure, tu prends ton métier très au sérieux, mais en fouillant un petit peu ton Instagram, j'ai vu que tu suis différentes épreuves de bikepacking, comme la French Divide, la Gravel Trobraise. Ça te titille un petit peu quand même ce type d'épreuve? Tu y penses pendant l'année ou c'est juste de la curiosité pour voir comme ça?
Non, c'est de la curiosité. Honnêtement, les épreuves qui se font, moi, je fais de la compétition avec d'autres coureurs, enfin, dans le système de compétition qu'en ce moment tu vois à la télé, et puis voilà. Et pour moi, justement, quand je prends ces sacoches ou quand je me fais mes stages et puis que je randonne pendant 2-3 jours pour découvrir la région et puis les terrains de jeu sur lesquels je pourrais m'entraîner, c'est justement pas pour faire de la compétition, c'est pour prendre mon temps, pouvoir m'arrêter, découvrir les villages. Et là, j'ai pris par exemple un itinéraire du Biking Man Algave. J'avais regardé, c'est pour ça que je suivais un peu différents comptes. Je regardais les différents itinéraires. Et après, pour moi, l'intérêt aussi de faire ça, c'est de pouvoir voir du paysage. Et puis déjà, quand tu roules la nuit, tu vois rien. Donc non, c'est pas le faire en mode compétition pour l'instant. C'est pas quelque chose qui m'attire du tout, non.
Ouais. Et là, tu as fait 1200 km en quelques jours. Est-ce que c'était un petit peu programmé dans ton entraînement de faire finalement plutôt des heures de selle à faible intensité, ou c'était vraiment, vraiment, vraiment du tourisme? Tu l'as fait pour l'amour du vélo, ou il y avait quand même une petite idée derrière la tête?
Ben, les deux sont pas incompatibles. Les deux sont pas incompatibles avec ce confinement de plusieurs semaines. Tout le monde sait que les bases de l'entraînement, ça reste de l'endurance. Et donc là, on en était à 2 ou 3 semaines, moi, de sortie de confinement. Donc, on est encore dans une phase d'endurance. Donc, parcourir comme ça, faire ces 42 heures de vélo en 8 jours, ça rentre parfaitement dans le programme d'entraînement. Et puis avec le capteur de puissance, tu peux facilement mesurer tes charges d'entraînement. Je m'amusais pas à le regarder quand je roulais, mais le soir je regardais si j'avais bien, enfin si la journée elle avait été, comment j'avais géré ma journée. Mmh. Et sur des périodes d'endurance comme ça, de une semaine, ça pose pas de problème. Mmh.
C'était la première fois que tu faisais quelque chose comme ça, un trip vraiment touristique sur plusieurs jours.
Ouais.
Et est-ce que c'est quelque chose que tu... Parce que c'est assez inhabituel quand même pour un coureur pro de partir à l'aventure comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'imagines réessayer l'hiver prochain, par exemple, de partir au soleil plutôt en mode touriste, plutôt qu'à aller se faire des stages classiques? Est-ce que c'est quelque chose que tu dis, tiens, ça, peut-être que ça fonctionne pas si mal? Ça change la routine en plus, comme tu m'as dit.
Ben, il y a plusieurs trucs. C'est que nous, déjà, on a des stages, des points de passage en décembre et en janvier qui sont organisés par l'équipe, et donc les coureurs, on doit être présents à ces stages-là. Où là, on commence à refaire des exercices en décembre et un peu moins d'endurance déjà. Donc, si il y a ce type d'entraînement-là et de séjour à placer, ça serait plus en novembre ou en début décembre. Pourquoi pas, ça reste, faut voir comment déjà la saison elle va se passer, où elle va se terminer. Parce que pour l'instant, si la saison reprend, elle risque de s'arrêter tard. Donc, faut pas non plus ensuite, moi, c'est pas, j'adore faire ça, mais ma priorité c'est d'être performant en course quand même.
Ouais.
Donc quand j'ai fini la saison, si je la termine, je sais pas où, la dernière course de l'année, je me dis pas la semaine prochaine je vais aller me faire du bikepacking de 1000 bornes quoi.
Ouais.
Le corps il a besoin de souffler, c'est difficile, on fait déjà beaucoup de voyages, on est souvent parti de la maison. Donc souvent quand la saison elle se termine, le premier truc qu'on a envie de faire c'est de décompresser un peu, de se reposer, de passer du temps à la maison. C'est, on se dit pas je vais repartir à l'hôtel avec un baluchon pendant une semaine à me laver mes fringues avec de la lessive quoi.
Ouais, t'as envie d'être cool.
Bah on a une vie de nomade nous, hein, plus ou moins sur toute l'année, on vit déjà dans notre valise, donc c'est vrai que quand la saison elle s'arrête, je pense que le premier truc à faire, c'est déjà se poser et puis se reposer. Mais après, dans une phase de reprise, ouais, j'exclus pas de faire un truc dans ce genre-là, peut-être dans un autre pays, peut-être un truc un peu plus en gravel. Ouais, je sais pas.
Alors, transition parfaite, parce que la semaine dernière, quand je t'ai écrit, donc je t'ai indiqué qu'on avait une connaissance en commun, donc Johan, qui est bien connu des auditeurs, qui est mon voisin, en fait, on habite à quelques kilomètres l'un de l'autre. Et pendant le confinement, un autre coureur qui est à la Continentale Groupama, Hugo Page, qui habite lui aussi à quelques kilomètres d'ici, m'a écrit en me disant la saison est morte. Ça te dirait pas qu'on aille faire un trip sur plusieurs jours ou du gravel ? Nickel, moi ça me va très bien de rouler avec un champion de France junior. Donc comme ça je verrai que sa roue arrière, c'est super. Et j'ai posé la question à Johan, je lui ai dit mais est-ce que ça serait pas une bonne idée, tu vois, même pour un jeune coureur, déjà dès le début de pas installer la routine des sorties longues et tout. Au contraire, d'aller se faire une journée gravel de 6, 7, 8 heures, parce qu'au bout du compte, ça fait quand même 6, 7, 8 heures de sel. Est-ce que c'est pas une bonne idée, peut-être un truc sympa à intégrer dans la préparation, justement pour casser la routine et faire plus d'heures de manière un petit peu plus ludique? Sachant que dans ces heures ludiques, si on parle de tout terrain, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des côtes, on peut faire un peu d'explosif, il y a quand même moyen de faire du bon boulot.
Non mais exactement, de toute façon je pense que quand on se spécialise dans une discipline, là on parle de la route nous concernant, pour ramener de la fraîcheur mentale et puis prendre du plaisir quand on remonte sur son vélo de route, pour moi je pense que c'est important de pouvoir changer de vélo. Et ça, on a beaucoup de chance avec justement cette discipline qu'est le cyclisme, où on peut quand même faire de la piste, on peut faire du pignon fixe sur route. On peut faire du gravel, on peut faire du VTT. Il y a beaucoup de disciplines qui sont quand même du cyclocross. Il y a pas mal de disciplines qui sont. On reste toujours sur un vélo et je pense que changer de discipline comme ça quotidiennement, ça amène de la fraîcheur. Après, si c'est un gravel de 7 heures ou faire un cyclocross d'une heure ou une course au point ou d'un entraînement de poursuite. Voilà, faut toujours garder à l'esprit que si on veut être performant sur la route, il faut faire de la route, mais changer de discipline de temps en temps, ça fait pas de mal, ça j'en suis sûr.
Ouais. Tu fais un petit peu de pignon fixe sur route, parce que c'est quand même un truc, je pense que comme tous les cyclistes du monde, enfin en tout cas de France, t'as vu Guylain Lambert et sa fameuse réplique j'ai fait 1500 bornes sur un 42-16. T'en fais encore un petit peu de ça ?
Moi j'en fais beaucoup, ouais. Je pense que même quand je suis en saison, sur mes semaines, des fois il y a des semaines je touche pas au vélo de route, je fais du pignon fixe tous les jours. Hein.
Et ça t'apporte quoi, ça, à part le côté casser la routine et retrouver de la fraîcheur concrètement?
Tu montes sur un nouveau vélo. Après, quand tu pars faire 3-4 heures de pignon fixe. Tu t'arrêtes jamais de pédaler. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est pas mal de changer de vélo comme ça parce que tu te focalises pas sur le capteur de puissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous des capteurs de puissance et on a tendance à souvent acheter un œil dessus. Donc, quand tu vas rouler avec ton vélo de pignon fixe, tu travailles naturellement dans les descentes en survélocité et puis dans les bosses en force. Donc tu fais du travail qui est pas du mauvais travail, tu fais du très bon travail sans t'en rendre compte, sans avoir le nez sur le capteur de puissance et ça c'est important. Et après t'as toute ta chaîne musculaire, ta chaîne postérieure musculaire qui travaille aussi énormément. Quand tu te fais les premières sorties de 3-4 heures en pignon fixe, tu rentres bien cramé. Hein.
Est-ce que là on a parlé, tu vois, d'aller faire du gravel, de 6-7-8 heures, du pignon fixe, plein de trucs. On se souvient aussi de cet hiver. La sortie de 6 ou 7 heures d'Ineos sur les vélos de chrono. Est-ce que dans les équipes pro ou au moins françaises, est-ce que changer de programme comme ça, d'aller à gauche et à droite, c'est quelque chose de bien accepté ou c'est quelque chose qu'il va falloir travailler davantage ?
De programme d'entraînement, de course ?
Ouais, plutôt de vélo, tu vois, de se dire, tiens, je vais faire du VTT, du gravel, de la piste ou du pignon fixe, est-ce que est-ce que c'est accepté par les staffs techniques ou est-ce qu'au contraire il y a encore un petit peu de réticence ?
Bon, après, je pense que non, il n'y a pas de réticence. Je pense que si le coureur, il est focus sur la chose principale, c'est d'être performant sur son vélo de route. À partir du moment que c'est l'objectif final de la multidiscipline, l'équipe, je pense pas que, enfin, moi, me concernant, je vais pas parler ensuite pour les autres équipes, hein, mais nous, on nous encourage plus à changer de discipline et puis à découvrir des nouveaux vélos, à switcher de temps en temps plutôt que attraper de la monotonie sur un vélo de route. Hein. Non, les équipes, enfin, moi, me concernant, après, il y a aucun souci pour ça. Ouais.
Je reviens sur un petit truc que tu as dit tout à l'heure. L'année dernière, quand tu t'es cassé la clavicule, tu voulais revenir en vélo et le médecin de l'équipe a dit non. Pourquoi ? Je t'ai pas posé la question tout à l'heure.
Parce qu'il y avait 1500 bornes et que j'avais fait 3 semaines d'home trainer, donc c'était un peu trop tôt.
Et pourquoi ? Parce que il avait peur de la perte de repères après 3 semaines de home trainer ?
Non, et puis bah ça a aussi un non-sens de faire 1500 km quand t'as pas roulé d'un coup, quand t'as pas roulé dehors. Enfin, sauf si tu t'amuses à faire des étapes de 70 km, mais là tu mets un mois. Hein.
Oui. C'est peut-être pas l'objectif non plus, oui.
Voilà, donc ça avait pas trop de sens, donc j'ai reporté mon trip à plus tard.
Ouais, ok. Tu m'as dit tout à l'heure, j'ai fait 6 semaines de home trainer. Tu faisais quoi sur home trainer ?
Un peu de tout. Je faisais des courses virtuelles là, des courses virtuelles et des entraînements avec les copains sur les plateformes. Mais bon, ça a été difficile de remonter sur l'home trainer. L'année dernière, je me suis fait 2 clavicules d'affilée. Donc j'avais déjà passé beaucoup de temps sur l'home trainer et c'est vrai que là, remonter dessus, c'était pas ce qui m'enchantait le plus. Mais bon, on n'avait pas le choix.
Ouais. Il y a eu pas mal de débats sur l'avenir du vélo, sur les courses Zwift retransmises sur l'équipe TV. Tu te sens comment, toi, par rapport à ça, par rapport à cette évolution du cyclisme ?
Ben, je pense que ça a été une bonne chose qu'il y ait eu les diffuseurs télé se soient intéressés à ce type de vélo, au e-sport. Et puis après, je pense que les coureurs pro, ils étaient aussi contents de, entre guillemets, mettre un dossard et puis de faire la course avec des adversaires, des vrais adversaires, pas des adversaires, entre guillemets, des cyclos. Là, voilà, ils étaient entre pros. Moi, j'ai pas participé à ces courses-là sur Zwift. J'ai fait que la course sur Rouvie du Tour de Suisse. Non, après, je pense que les téléspectateurs, ils étaient contents et qu'ils trouvaient leur bonheur, enfin, qu'ils trouvaient du bonheur à avoir du vélo à la télé, c'était une bonne chose.
Également, par rapport au home trainer, je me suis fait une réflexion récemment avec Johan et on s'est dit que, tu sais, en course à pied, en natation, et c'est des réflexions que j'ai eues pas mal dans les épisodes précédents. La semaine dernière, j'ai fait un épisode avec Jean-Christophe Savignoni qui a été champion d'Europe de VTT dans les années 90. Et on s'est fait la réflexion que, tu vois, le vélo, la course à pied, la natation sont des sports très... très paramétré avec des séries, avec des tours de piste, avec des tours de bassin, et chose qu'on retrouve évidemment pas à vélo, parce que sur la route on a le vent, on a éventuellement l'aspiration d'un camion qui passe, on a plein de paramètres qui empêchent de faire des séries vraiment structurées. Par contre, avec l'arrivée des nouveaux home trainers de Zwift, ça donne peut-être un nouvel accessoire de performance pour s'entraîner peut-être de manière plus rationnelle. Tu vois, de faire vraiment des séries au capteur avec telle puissance plutôt que d'aller sur la route. T'en penses quoi ? J'ai dit une grosse connerie ou il y a une part de vrai ?
Non, il y a une part de vrai. Après, tout ce que tu as dit concernant le vélo, c'est vrai, sauf sur la piste.
Mais on n'a pas tous accès à une piste proche de chez soi.
Ouais, mais sur la piste, tu peux quand même travailler comme si tu étais sur un stade d'athlétisme ou en. C'est d'ailleurs comme ça que les coureurs sur piste s'entraînent. Maintenant, avec les capteurs de puissance, si quand même tu as un col ou une route avec une ligne droite suffisamment longue, tu peux quand même t'entraîner assez précisément en respectant les zones. Ça va dépendre en fait de la durée de ta série et puis de la durée de ta série puis de la route que tu as. Ouais. Mais c'est sûr qu'en entraînement brut, s'échauffer 15 minutes et faire ses exercices sur l'entraîneur, faire sa récup et descendre du home trainer, c'est quelque chose qui est pour quelqu'un qui habite en ville ou qui a pas, je sais pas, une bosse de 40 minutes ou de 20 minutes où il peut faire ses exercices, c'est l'outil idéal. Maintenant, il y a le rendu quand tu pédales, il est agréable. En plus, même si t'es en appartement, ça, il y a des entraîneurs qui font pas trop de bruit. C'est quand même un outil assez exceptionnel. Et je pense que beaucoup de coureurs pendant le confinement se sont rendus compte que tu pouvais travailler très très bien sur l'entraîneur. Moi, je fais souvent des séances sur entraîneur de temps en temps quand je fais du bicotidien.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En plus, là, tu parlais d'une séance, par exemple, échauffement 15 minutes, série et retour au calme. Ça n'empêche pas de faire ça le matin et d'aller faire une sortie plus endurance fondamentale l'après-midi, par exemple. Ou l'inverse.
Voilà, ou l'inverse. Exactement. Mmh. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps.
Je crois que c'est dans l'équipe. De toute façon, on voit ça que dans l'équipe. C'était sur lemonde.fr. J'étais tombé sur une réflexion de Romain Bardet qui disait à la sortie du confinement, après toutes ces heures sur le home trainer, ça va pas être beau à voir, notamment en côte, parce que forcément, on se met pas en danseuse. T'as eu des sensations bizarres ou déjà l'année dernière avec tes deux clavicules? C'est quoi les sensations quand tu reviens sur la route après autant de home trainer?
Ouais, c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand même, mais je vais te dire quand j'ai mis mes sacoches là pour faire le backpacking là, je trouvais que finalement la danseuse elle était assez proche du home trainer parce qu'en fait t'évites de secouer le vélo à droite à gauche avec pour éviter que ça balance les sacoches derrière.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'était un peu la même position sur le vélo, mais c'est vrai qu'il a pas tort quand on est descendu du vélo. Tous, je pense que les premiers tours de roue, ils ont été un peu bizarres. Faut que tu retrouves l'équilibre, les freins, le sens des trajectoires et tout ça. Mais bon, après, comme on dit, le vélo, ça s'oublie pas.
Ouais, ça revient vite.
Donc, c'est juste des repères qui sont un peu changés au début, mais ça revient vite.
Est-ce que cette période de confinement, tu vois, c'est pas que ça t'a éloigné du vélo parce que t'as fait du home trainer, mais est-ce que d'une certaine manière, c'est pas, je vais même pas parler de toi, simplement de tous les coureurs, est-ce que c'est pas un peu une bénédiction finalement cette période où vous avez été enlevé de force de la saison et peut-être enlevé de force à une certaine routine, peut-être des fois une certaine monotonie, et est-ce que ça va pas raviver une passion primaire du vélo qu'on peut avoir quand on est cadet, junior ou espoir et qui peut-être s'amenuise un petit peu avec les années de professionnalisme. Est-ce que c'est pas une chance finalement pour vous?
Je pense qu'au contraire, les gars, ils étaient plutôt lassés d'être sur l'home trainer et puis de rester à la maison. Parce que quand on aime faire du vélo, on aime être en extérieur et puis le plein air, je pense que c'est plutôt le confinement qui était difficile à gérer plutôt que... à rouler sur route toute l'année, mais c'est pas parce que ensuite tu t'amuses à faire du home trainer, tu fais du home trainer pendant 6 semaines que quand tu ressors sur route, tu retrouves la flamme, tu retrouves une passion du vélo comme quand t'étais cadet. Je pense que tu te remets à apprécier les choses simples du vélo, enfin des choses simples, même sans parler du vélo, c'est de la vie de tous les jours. Quand t'es resté chez toi très longtemps.
Putain, je suis à court de questions là. j'ai un petit temps mort. Je vais reprendre ce qu'on disait la semaine dernière avec Jean-Christophe Savignoni, parce qu'en fait j'avais un petit peu spoilé sur une question en lui disant écoute, la semaine prochaine je poserai cette question à Jérôme Cousin la semaine prochaine. Alors c'était un peu audacieux parce que j'étais pas sûr qu'on réussisse à faire l'épisode, mais je me suis lancé quand même, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va changer pour la... Est-ce que déjà, la première question, est-ce que tu vas être sur le tour?
Ça, on ne sait pas. Hein. Déjà, il faudrait que la saison reprenne. Après, il faut qu'on fasse des courses. Et après, il faut être, pour aller sur le Tour de France, il faut être en forme. Donc, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Mais moi, j'ai envie d'être sur le tour. Il y a une arrivée à Lyon, un départ à Lyon. J'habite là-bas, j'ai envie d'être sur le tour, ouais.
Ouais. Alors du coup, je vais reprendre pareil, je l'ai déjà sorti la semaine dernière, mais maintenant je vais avoir ton point de vue. Dans l'équipe, on a vu passer une citation, enfin une réflexion de Thomas Vauclair qui disait « S'il n'y a pas de course avant le tour, c'est pas grave. » En gros, hein, je schématise. « Maintenant, avec les programmes d'entraînement, il y a moins besoin de courir que par le passé. » Donc là, il faisait référence à son époque. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que, imaginons, tu es en forme, tu es sélectionné dans la, t'es dans la sélection pour le tour. Est-ce que ça va changer quelque chose pour toi par rapport à, au protocole habituel avec... le Dauphiné, puis le Tour, est-ce que ça va changer quelque chose pour toi?
Non, je partage un peu son point de vue à Thomas. C'est vrai que maintenant, avec les capteurs de puissance, si tu arrives à faire des stages, bon, faut réussir à faire des stages quand même en équipe, mais en équipe, réussir à avoir un scooter à la maison pour pouvoir s'entraîner. Et l'année dernière, moi, j'avais réussi à atteindre un très, très bon niveau de forme. Et normalement, j'aurais dû être sur le Tour de France avec seulement 3 ou 4 semaines de vélo. Malheureusement, je me suis recassé la clavicule. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut quand même se préparer. On peut quand même très bien se préparer tout seul. Mais c'est vrai qu'il faut quand même quelques instruments comme avoir un scooter à la maison et quelqu'un qui puisse le conduire. Pour faire du derrière scooter, il faut quand même avoir un terrain de jeu aussi qui soit quand même propice avec un petit peu de montagne, quelqu'un qui habite dans des régions plus plates. C'est vrai que c'est plus difficile de se préparer tout seul. Mais oui, je pense que c'est possible quand même. Ouais.
Ça sert à quoi le... Bon, j'ai un petit élément de réponse, je vois à peu près, mais les... est-ce que tu peux m'expliquer en quoi le scooter, ou le dernier, pour parler à l'ancienne, est vraiment un outil essentiel du coureur pro?
Parce que tout simplement, on se met derrière le scooter et puis on simule des... On pédale à une vitesse comme si on était dans le peloton en course, et ça permet aussi de... Quand on fait des entraînements, souvent on récupère le scooter après quelques heures et ça permet de rallonger la sortie pour simuler des distances de course qui sont plus longues à des vitesses qui sont plus rapides que si on roulait tout seul.
Ouais. Donc ça permet en fait de simuler l'allure de course avec juste l'abri du scooter, tout simplement.
Exactement.
Ouais.
Et rajouter des kilomètres d'entraînement.
Ouais. Donc par exemple une sortie où tu vas te dire je roule et après je fais scooter. C'est tu fais combien seul et combien sur le scoot, derrière le scoot, pardon.
Il n'y a pas de règle parce que des fois ma sortie de scooter ça va être je fais 30 minutes de route, je fais 1h30 de scooter et puis je rentre à la maison quand je suis 2-3 jours avant une course des fois pour me débloquer, reprendre du rythme. Après des fois ça va être je vais faire 3-4-5 heures et puis je vais faire la dernière heure derrière scooter. Enfin, ça dépend déjà si mon pilote est disponible. Ça dépend si mon pilote à quelle heure il est disponible déjà. Et ensuite, moi, de ce que j'ai à faire et comment je peux le faire en fonction de la météo, de ses disponibilités. Mais dans l'idéal, bien sûr, c'est de s'entraîner avant et puis d'arriver derrière le scooter un petit peu entamé, fatigué pour pouvoir continuer à vider les réserves.
Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question, en fait. Cette sortie de 5 heures seule et après tu fais 1 heure, je suppose que c'est vraiment pour simuler la fin de course où finalement tout va se jouer. Même si j'aime pas l'expression, ce que les commentateurs de France 2 appellent le money time, c'est finalement où là où tout va se jouer.
Voilà, et puis c'est pas que pour simuler ça, ça va être aussi pour... remettre de la vitesse de jambe en cadence à une vitesse supérieure après 5 heures de vélo. Ça va être pour pouvoir simuler des sprints avec de la fatigue derrière le scooter. Ça va être monter des bosses rapidement en fatigue. Enfin voilà, c'est pour vider le réservoir complètement et puis pour pouvoir passer des nouveaux paliers.
Ouais. Quand tu disais à l'instant, parce qu'on m'a posé la question il y a quelques temps et tu l'as dit, quelques jours avant une course, faire 30 minutes puis du scooter pour se débloquer, ça veut dire quoi se débloquer?
Se débloquer, ça va être simuler...
Retrouver du rythme et se débloquer, ça veut dire quoi? Ouais.
Ça va être réveiller le corps avant une course. Souvent, c'est avant les courses d'un jour qu'on fait ça. Ça va être réveiller le corps, simuler un tout petit peu la course pour stimuler le corps et qui se réveille avant une course.
Ça veut dire qu'on va mettre le corps déjà un petit peu dans le rythme de la course, finalement.
Voilà, on va stimuler le corps pour le mettre, pour le réveiller un peu, pour le débloquer et pour le simuler qu'il soit prêt pour le jour de la course.
Et si tu le fais pas, il se passe quoi?
Bah, si tu le fais pas, c'est quand même mieux de le faire.
Mais alors, du coup, réponds, si tu peux répondre à la question, si tu le fais pas, tu te sens comment? Tu sens que t'as du mal à te mettre en route?
Ouais, c'est un peu plus dur de se mettre en route en début de course. Ouais. Souvent, ouais. Bon, après, ça dépend comment tu t'es entraîné avant, ça dépend de la météo, ça dépend de ton voyage. Enfin, c'est difficile de faire des généralités.
T'es plutôt le genre à emmener gros ou à mouliner? En moyenne, t'es à combien par minute? T'es plutôt quel genre?
90 tours minute.
Ouais. Et par rapport à ce que tu vois autour de toi, c'est comment? C'est beaucoup? C'est peu? C'est quoi?
Je sais pas.
Il y a un truc que je me demande. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de natation, de course à pied. Ce sont des sports extrêmement techniques. Et on a tendance parfois, j'ai l'impression, à oublier que le vélo a une dimension extrêmement technique et stratégique. Est-ce que tu travailles le coup de pédale ou la technique de pédalage? Ou comment tu vas répartir ta... Comment tu vas appuyer? Comment tu vas répartir ta force? Avec quelle... Avec, plutôt plus avec les cuisses, plutôt avec les mollets, pareil en côte, pas, ou sur le plat, ou la position sur le plat, la position en côte ou en col. Est-ce que tu travailles ces différents coups de pédale et ces différentes techniques de pédalage?
Ben déjà, moi, avec la piste et tout le pignon fixe que j'ai fait, j'ai quand même un coup de pédale qui est plutôt rond. Et rond, c'est-à-dire que je fais une bonne poussée et une bonne tirée. Donc, je fais tellement de pignons fixes sur une année que souvent, enfin, j'ai pas besoin de me concentrer à faire ça.
Et ben voilà.
Bah non, mais qu'est-ce que je peux dire? J'ai rien d'autre. Non, mais.
Non, mais c'est cool, t'as répondu, ok, t'as pas besoin, et ok, pas de souci. Bah là, du coup, j'arrivais un petit peu à court. Mais malgré tout, le quotidien pour toi maintenant, là, l'espace aérien va se rouvrir petit à petit. T'espères revenir en France d'ici combien de temps?
J'ai pris mon billet pour la France le 25 juin, moi.
Ouais.
Donc, je vais encore rester un mois ici. Et puis ensuite, je rentrerai en France. Je vais partir en altitude quelques semaines. Et puis, je vais rejoindre l'équipe normalement. En juillet, enfin, on attend pour l'instant un peu l'évolution de la situation pour voir quand on aura des premiers rassemblements.
Ouais. Tu vas partir où en altitude?
Je vais partir dans les Alpes.
Ouais. Ah, tu vas faire comment? Tu vas faire entraînement plaine et col et vivre en altitude? Comment tu vas procéder pour ça?
Ouais, je fais ça. Je dors en haut et puis. Puis je m'entraîne après en prenant mon temps au début, en respectant les protocoles d'altitude pour pas se fatiguer, mais je réagis très bien à l'altitude, donc ouais. C'est quelque chose que je vais faire pour préparer le début de saison.
Et ça va être à peu près quoi ton programme? Tu prévois quoi comme volume ou comme exercice?
Pour l'instant, je sais pas. Moi, je suis un coureur, je m'entraîne tout seul, j'ai pas d'entraîneur, je m'entraîne aux sensations. Je ferai le point quand je rentrerai en France, où j'en suis dans mon niveau, où j'en suis physiquement, et puis ce que j'ai fait avant pour pouvoir planifier ce que je ferai en altitude, et puis comment je gérerai mon mois de juillet avant les premières courses.
Tu t'entraînes seul, ça veut dire que c'est une décision de ta part de gérer toi-même ton entraînement, ou parce que bêtement tu sais pas à qui demander, ou parce qu'il y a personne dans l'encadrement pour vous aider à ce niveau-là?
Ah non, chez les pros, il y a des entraîneurs qui sont disponibles pour les coureurs, hein. Quand même, c'est des équipes pros, hein. Mais non, moi, c'est un système de fonctionnement qui me convient bien, de m'entraîner tout seul. J'ai pas besoin d'entraîneur. J'aime bien me gérer tout seul, donc ça me dérange pas de procéder comme ça. Mais non, après, chaque équipe pro, enfin, nous, en tout cas, dans notre équipe, il y a deux ou trois entraîneurs, plus ensuite certains directeurs sportifs qui entraînent des coureurs. tout le monde peut se faire entraîner par un entraîneur s'il le souhaite.
Et toi, comment tu te bases sur quels critères pour te dire « Ok, là, je suis en forme, je suis dans les clous pour aller courir » ou au contraire, « Là, il me manque telle qualité, je pêche un petit peu dans ce truc-là » Comment tu évalues ton état de forme ?
Sensations.
Ouais.
Aux sensations, au feeling, au ce que je ressens, déjà mon moral, l'envie que j'ai, et puis ensuite les exercices, comment je les passe avec les capteurs de puissance, c'est pas difficile de regarder où t'en es. Hein.
Et est-ce que tu fais
donc,
un...
voilà.
Pardon, je t'ai coupé.
Est-ce que je fais quoi ?
Est-ce que tu fais un petit rapprochement entre les données de ton capteur, par exemple, entre ce que tes jambes vont te dire et l'envie que tu vas avoir ? Par exemple, des bons chiffres, mais te trouver un petit peu, pas traîne la grolle, mais pas loin. Te dire, bon, ok, j'ai des bonnes jambes, mais en fait, j'ai pas spécialement envie. Tu gères ça, si ça t'arrive, tu gères ça comment ?
Enfin, si j'ai pas envie de faire du vélo et que je fais des bons chiffres.
Ouais.
Enfin, c'est pas. Je sais pas, elle est un peu guidée la question. C'est-à-dire que.
Tu fais quoi ? Tu dis ok, ça va passer, tu te reposes, tu fais quoi ?
Non, mais souvent quand tu as des bons chiffres, enfin, quand tu marches et que tes valeurs sont dans les tranches hautes des entraînements en puissance sur les courbes de puissance, souvent c'est que les voyants ils sont au vert quoi.
Donc le moral est là aussi. Le moral va suivre les jambes.
Souvent ça va te perdre hein, souvent. Hein.
Ouais. Quand est-ce que je t'emmène faire du gravel vers Annecy, tout ça dans les Alpes ? Ça te dit rien de ces quatre ? Bon là t'es au Portugal et je pouvais te proposer la semaine prochaine d'aller se faire un truc sur les glières, mais t'es au Portugal. Donc ouais. Ça sera pour plus tard. Mais imaginons, ouais. Les courses sont un petit peu reculées pour un problème sanitaire quelconque. Il n'y a pas de course. Je t'écris, je te dis, Jérôme, je suis à Annecy. À ce moment-là, récupère un gravel. Est-ce que tu viens ?
Ouais, si j'ai un vélo. Sinon, j'ai mon vélo de cross. Mais ouais, moi, je suis toujours partant. En plus, c'est une région que j'adore. J'adore faire du vélo là-bas. Mmh. Donc, ouais, moi, je suis toujours partant pour. Pour faire du vélo, et puis c'est pas loin de Lyon en plus, donc ça va.
Non, c'est
pas...
1h30, donc ça devrait aller. Et pour terminer, ouais. Bon, tu m'as donné un petit peu la réponse tout à l'heure, mais t'as 30 ans, c'est ça ?
Mmh.
Ouais. Tu te donnes encore combien d'années chez les pros ?
Moi, je me suis toujours dit que quand j'aurais plus envie, j'arrêterais. Donc j'espère... Donc, j'ai pas vraiment de date en tête où je me suis pas dit à tel âge t'arrêteras. Ce qui est le plus important, c'est d'être heureux, d'être bien dans sa tête, d'aimer son métier, de prendre du plaisir à monter sur le vélo. Mmh. Après, si tu remplis plus toutes ces conditions, je pense que c'est mieux d'arrêter parce que c'est de toute façon, tu peux plus continuer. Après, c'est un métier qui est trop difficile.
Mmh. Est-ce que tu t'envisages un petit peu d'ores et déjà l'après ? Tu y penses ou pas ?
Quand on est sportif, il faut y penser, mais je pense que un sportif de haut niveau, s'il est en préparation active de sa reconversion, il n'est plus sportif de haut niveau. Donc, il faut toujours garder dans un coin de sa tête que c'est que un métier entre guillemets de passage, mais il faut, je pense, attendre le dernier moment pour commencer à se reconvertir, parce que sinon, t'es plus capable de te donner à fond dans ton métier de cycliste.
Donc, j'ai pas besoin de te demander si tu envisages d'autres types d'épreuves ou de pratiques après ta carrière. Ça voudrait dire que t'as déjà un pied dedans.
J'ai pas compris.
Si je te demandais, par exemple, est-ce que t'envisages de faire des épreuves d'ultra, vélo ou en triathlon, ça voudrait dire que tu y penses déjà et que t'as déjà un petit pied dedans et que finalement, ta carrière de cycliste est... un peu derrière toi.
Non, tu peux quand même totalement y penser et tout. Ce que je disais, c'est plus c'est pas penser à faire des épreuves d'ultra après sa carrière, ça veut pas dire que t'es plus dans ton métier de cycliste hein.
Ouais.
Tu te projettes juste sur une autre épreuve. Je parlais de se reconvertir vraiment, pas préparer une épreuve d'ultra, c'est pas une reconversion, ça va pas te faire manger. Hein. Non, je parlais de commencer des démarches scolaires ou d'entreprise pour pouvoir se reconvertir. C'est ça une reconversion, c'est pas aller faire un biking man. Hein.
Bon alors du coup, je peux te poser la question, est-ce que ça te chauffe un petit peu de faire ces trucs après ? Ou est-ce que vraiment pas du tout pour le moment? T'y penses ou pas?
Non, franchement, si je fais des épreuves comme ça, moi, ça sera dans des régions et des pays que je connais déjà. Sinon, j'aime trop découvrir les pays, passer du temps avec les gens, découvrir la cuisine de chaque pays, plutôt que le traverser comme un dingue la nuit et puis faire 300 km par jour sans rien voir, quoi.
Bah, tu sais quoi, on va s'arrêter là-dessus. Malgré tout, je vais quand même te garder la petite surprise réservée à tous les invités qui s'appelle la minute de solitude. Donc moi, je vais sortir de la pièce, je vais poser mon micro, toi, tu restes en ligne et tu dis ce que tu veux. T'as une minute, c'est une minute de solitude, donc t'es seul face à ton micro et tu dis ce que tu veux. Alors, je vais te donner un indice.
Bah attends, là, j'ai déjà parlé longtemps. Hein.
Mais tout le monde l'a fait. T'es le 57e à le faire. Donc, il me semble que tu peux pas passer outre. Mais je vais quand même te donner un indice, il y en a qui n'ont rien dit.
C'est ce que j'allais faire. J'allais commencer à enfiler mon cuissard pour partir rouler.
Bah tu sais quoi? Laisse-nous, garde-nous les chaussures à proximité, fais-nous juste siffler le bruit du boa que tu resserres et ça ira très très bien. Ok?
Ok, parfait.
Bon Jérôme, merci beaucoup. Je garde sous le coup de l'idée d'aller rouler ensemble un de ces quatre dans les Alpes. J'espère que ça ne se produira pas, parce que ça signifiera que les courses ont repris et que tu peux accomplir ton métier correctement. Bien entendu, je te souhaite tout le meilleur pour la saison et j'espère te voir briller sur les épreuves auxquelles tu participeras. Et à très très bientôt.
Ok. C'est gentil, merci. Et merci à toi de faire intervenir un cycliste professionnel pour pouvoir rapprocher un peu toutes les différentes pratiques du cyclisme, c'est important.